girl a feel.
Sur le fil.
Sur le fil.
Une émission de bidouilles sonores,
de bruits chelous,
de fonds thématiques
et de formes ludiques,
d'écriture plurielle.
D'écriture plurielle. Une émission qui fait
des nœuds. Qui fait des nœuds.
Qui s'en mêle.
Qui s'en mêle.
Qui démêle.
Qui démêle.
Qui s'en mêle.
Au gré du mistral.
Une émission de haute voltige. Voltage. Fréquence. Une émission de création sonore.
Une heure de tout et de rien.
Tous les deuxièmes dimanches du mois.
De 20h à 21h.
Par des transpédéguines.
Ou des posts queer un peu timbrés. Sur Radio Galère, 88.4 FM.
Et en DAB+.
Sur le fil.
Sur le fil.
Sur le fil.
Sur le fil. Sur le fil, Radio Galère. Salut tout le monde. Vous êtes sur les ondes de Radio Galère 88.4 et c'est l'heure de l'émission Sur le fil.
Aujourd'hui, on est en tout petit comité, on est tous les deux en fait. Et contrairement à d'habitude, aujourd'hui on vous proposera pas de son barré, ni de noise, ni de création sonore. On part sur une émission finalement très musicale et très chronique.
Ce soir, on efface, on censure, on invisibilise, on sort la gomme de la trousse.
Au programme, la formule du docteur Funambule, savant fou du lexique choisi, archéologue du proverbe moisi, voici une nouvelle rubrique à la gomme qui mâche bien ses mots. Aujourd'hui, sous le microscope, les expressions et différents sens du mot « gomme », idiomatique, toi-même.
Mais comment ils ont fait ? Une chronique sur l'invisibilisation des minorités dans l'histoire de la littérature, de l'art, du travail en général. On lira également la chronique musicale d'une de nos camarades qui n'a pas pu venir ce soir en studio sur une certaine chanson, Babe, I'm Gonna Leave You.
Et on vous proposera aussi de découvrir les origines de l'autocollant en noir et blanc Parental Advisory Explicit Content. Mais tout de suite, on commence par la formule du docteur Funambule.
La gomme. La gomme est une substance mucilagineuse et transparente, provenant de l'exsudation naturelle ou provoquée de certains végétaux. En dermatologie, et c'est beaucoup moins appétissant, c'est aussi une lésion inflammatoire d'origine infectieuse de l'hypoderme, évoluant vers le ramollissement, la nécrose et l'ulcération, en passant par les quatre stades classiques de crudité, ramollissement, fistulisation, réparation. Par exemple, quand on a la syphilis tertiaire, la tuberculose, des mycoses profondes ou encore certaines infections graves. En chimie, la gomme est une substance présente dans de nombreux organes végétaux, tels que tiges, bois, fruits, formés de polyosides de masse moléculaire élevée, comme les arabanes, les xylanes ou les mananes. À la base, le chewing-gum est une préparation pharmaceutique de consistance souple constituée d'un support, une gomme, qui s'amollit à la mastication, libérant progressivement un principe actif plus ou moins parfumé. En l'occurrence, il s'agit de la gomme chiclé, latex qui s'écoule du sapotier, arbre fruitier d'Amérique centrale. Le principe actif est en général un désinfectant buccal. On le sait, on nous l'a dit en moyenne section, la gomme elle-même ne doit pas être ingérée. Moins recommandé par les médecins, on parle de gomme ou pâte à mâcher, de chic de gomme, de chiclette, de bubble gum, de gomme balloon. Elle se présente sous différentes formes et est préparée à partir d'une base de latex ou caoutchouc naturel ou synthétique, butyl isoprène, de qualité alimentaire, insoluble dans l'eau, mêlée à une cire végétale, carnauba, le tout additionné de sucre ou d'édulcorant, d'arômes naturels ou de synthèse, de parfums alimentaires et de colorants, éphémères, destinés à être mâchés, puis recracher une fois l'arôme et le sucre disparus. La gomme arabique, quant à elle, est récoltée principalement en Afrique saharienne, au Sénégal, en Mauritanie, et est fournie par différentes espèces d'acacia et entre dans la composition de plusieurs produits, émulsifiants, épaississants, sirop d'orgeat, pastis, textiles d'apparat, peinture, feuilles à rouler, chaux, photographie, céramique. C'est certainement la plus ancienne et la plus connue de toutes les gommes. Les Égyptiens la connaissaient sous le nom de Kami et l'auraient utilisée dès la 3e dynastie, 2650 avant Jésus-Christ, pour assurer la cohésion des bandages de momies. Le papyrus d'Ebers, papyrus médical rédigé vers 1550 avant l'ère chrétienne, présente l'emploi de la gomme d'acacia ou gomme arabique comme moyen de contraception en association avec des dattes. Les pharaons mâchaient déjà la résine de lentisque, qui donnait une gomme masticatoire aux vertus oubliées, si ce n'est de lutter contre la dysenterie. Et sur l'île grecque de Chios, on se rafraîchissait l'haleine avec le mastic du pistachier lentisque. Mais c'est Thomas Adams qui s'est dit l'inventeur officiel du chewing-gum en 1872. Bien sûr, Thomas. Pourtant, les Européens ne connaissent la gomme qu'au XVe siècle et au XVIIIe siècle, une guerre de la gomme sanglante et acharnée permet à la France d'obtenir le monopole de son commerce sur la côte ouest africaine. Le qualificatif d'arabique n'est dès lors pas historiquement ni géographiquement correct puisque les régions d'Afrique du Nord et de l'Afrique saharienne ne sont pas d'origine arabe. Pendant la colonisation, la gomme devient une denrée d'initiés et les Français et les Anglais vont s'en disputer le commerce. La gomme à effacer est un bloc de caoutchouc servant à effacer le crayon, l'encre. Il y a aussi la gomme laque, une résine sécrétée par des insectes parasites vivant sur certains arbres, utilisée notamment comme vernis. Et la gomme résine, utilisée en médecine comme expectorant ou antispasmodique.
You could say she was a sex fiend. I met her in a hotel lobby, masturbating with a magazine. She said, how'd you like to waste some time? And I could not resist when I saw little Nikki grind.
Et vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Sur le fil sur les ondes de Radio Galère 884. Et on vient d'entendre le morceau Darling Nikki de Prince, sorti en 1984. Alors, au-delà du fait qu'on n'écoute jamais trop de Prince dans la vie, pourquoi ce morceau ce soir ? Eh bien parce que figurez-vous que c'est ce morceau qui est à l'origine de l'autocollant noir et blanc Parental Advisory Explicit Content, qu'on a pu voir fleurir fin des années 80 jusqu'au début des années 2000 sur beaucoup de disques, principalement des CD de rap ou de métal. Pour le contexte, Darling Nikki, ça parle de masturbation à un moment dans la chanson, et ça, c'était pas du goût d'une certaine femme états-unienne puritaine qui avait le bras long. Moi, perso, je me souviens que quand j'étais ado, ce Parental Advisory Explicit Content, je l'avais en poster affiché sur la porte de ma chambre. C'était cool, un truc un peu à la mode, mais j'avais aucune idée de ses origines et je me posais pas trop la question. Alors cette pastille Parental Advisory, qui voulait gommer la musique, c'est quoi son histoire ? On est en 1985 et tout part donc d'une femme blanche, riche, prude et raciste comme on les déteste. Cette femme s'appelle Tipper Gore, c'est la femme d'Al Gore, ancien vice-président des États-Unis. Et ben elle, quand elle entend pour la première fois Darling Nikki de Prince, elle en peut plus, elle est trop choquée. Alors avec d'autres de ses copines, femmes de sénateurs ou de députés, elle fonde le Parents Music Resource Center, le PMRC. Et il se passe plein de trucs, mais en gros, en faisant jouer leurs contacts haut placés et comptant sur la culture puritaine et raciste des États-Unis, elles réussissent à imposer cet autocollant à accoler sur tous les disques jugés violents ou décadents, selon elles. L'idée est claire, faire pression sur l'industrie musicale pour protéger les chères petites têtes blondes. Bref, de la censure pure et dure. Et pour l'anecdote, au même moment, il y a une autre team de parents qui contre-attaque et crée la campagne Parents for Rock and Rap, je vais le dire avec l'accent français, pour promouvoir cette fois la liberté d'expression plutôt que la censure à la gomme. Et parmi elles, il y avait la mère de Tom Morello, futur guitariste de Rage Against the Machine. Mais revenons aux Washington Wives. Leurs revendications ont eu beaucoup d'écho dans la société états-unienne. Elles réussissent à faire pression, et voilà que l'autocollant Parental Advisory commence à voir le jour sur différents CD jugés trop violents, occultes, décadents ou sexuels. Dans le même temps, des grandes chaînes de magasins commercialisant des CD et certaines maisons de disques commencent à « proposer » entre guillemets aux artistes d'enregistrer des versions différentes de leurs originales pour feinter ce sticker et pouvoir passer à la radio. Ces versions, on les appelle encore aujourd'hui, parce qu'elles existent encore, des « clean versions ». En bon français, des versions propres. Et par propre, entendez « censurer », »,« dénaturer », »,« gommer ». On y revient juste après. Mais pour résumer, ce petit bout de papier en noir et blanc, Parental Advisory, a modifié pas mal de choses dans l'industrie musicale, et pas qu'aux États-Unis. Aussi, pendant un temps, les rappeurs se sont emparés de ces stickers pour vendre plus, parce que, ouais, quand tu voyais le Parental Advisory sur des disques, ça te donnait encore plus envie de les écouter. Alors c'est devenu un étendard dans le rap US, ça donnait de la valeur à leur musique, parce que si les puritains voulaient marquer leur langage, leur message, leur son, ben c'était tout bénef, ça voulait dire que leur musique valait la peine. Et pour revenir aux clean versions, peut-être qu'aujourd'hui c'est moins criant parce qu'on écoute ou découvre de moins en moins la musique à la radio ou en CD, mais bien sur des plateformes musicales comme Spotify ou quoi, ben reste que les versions gommées existent toujours. Parce qu'on regarde des clips, parce que la radio existe toujours et a encore du poids, oui oui. Et avant le boom de ces plateformes, c'était il n'y a pas si longtemps que ça non plus, c'était pire parce qu'on découvrait les tubes à la radio et quand on pouvait en choper des CD. Alors imaginez que beaucoup des chansons qu'on entendait étaient censurées. C'est un peu dingue de se dire que ce qu'on découvrait n'était pas les versions originales des artistes. En France, la censure, elle peut prendre d'autres formes, comme demander aux artistes, ou plutôt à leur maison de disques, d'enregistrer une version avec d'autres mots que ceux dits gênants. Mais les clean versions existent quand même. Exemple.
Mais comment ça, le monde est hyper, tu croyais quoi, qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta dja dja, genre, en katana, baby, tu t'aides ça.
Voilà, bah, du coup, vous l'avez entendu, on a coupé catin d'un des plus grands, le mot catin d'un des plus grands tubes de la musique française, et ouais. Et trêve de blabla, je vous propose maintenant de découvrir à quoi ressemblent les clean versions d'hier et d'aujourd'hui dans un mash-up de versions gommées anglophones. Ce sont leurs versions radio, autant aux US qu'au Royaume-Uni, et sûrement dans d'autres pays, mais aussi sur des versions clips qu'on retrouve, on entend ces versions sur Internet par exemple. Alors ça peut être un peu furtif pour nous si on capte pas tout en anglais, mais portez attention au silence bizarre, au rythme cassé. C'est tout simplement des mots qui ont été effacés. C'est bien là que la gomme fait toute son œuvre et dénature des œuvres, brouille des messages. Et je vous donne un petit indice, c'est souvent les mots fuck, motherfucker, sex, pussy, ass, nigga, bitch qui passent à la gomme. Et je vous propose aussi de faire vos bingos chez vous pour retrouver les mots qui sont supprimés. C'est parti, ça risque d'être pas que agréable, surtout si vous kiffez déjà les morceaux.
I said certified free, 7 days a week. Wet, make that game weak. Yeah, you dealing with some wet. Bring up and I'm out with this wet. Give me everything you got with this wet. Baby, catch a charge, extra and extra. Put this right in your face, swiping like a credit card.
Yeah. Would a real please stand up? And all the fakes sit down. Hold your head, hold your crown. Would a real please stand up? And all the fakes sit down. Let me fix my crown.
Showing out for the white cop. Ice Cube will swarm on any in a blue uniform. Just cause I'm from the CPT, punk police are afraid of me, huh? A young on the warpath, and when I finish, it's gonna be a bad of cops in LA. Yo, Dre, I got something to say.
Tell them some Madonna, taking hella long, give it to me now.
So this is my cassette I'm sending you, I hope you hear it. I'm in a car right now, I'm doing 90 on the freeway. Hey Slim, I can fit the Jammin' and Drive. You know the song by Bill Collins in the air of the night about that guy who could have saved that other guy from drowning but didn't? Then Bill saw it all, then at a show he found him? That's kinda how this is. You could have rescued me from drowning, now it's too late. I'm on 1,000, now I'm drowsy. And all I wanted was a lousy letter of a call. I hope you know I ripped all of your pictures off the wall. Well, gotta go, I'm almost at the bridge now. Oh, I forgot, am I supposed to send it out?
Oh, they right, yeah. Whoa, I just can't help but tell me your schedule. I got a lot of new tricks for you, baby, just saying I'm flexible. I do what they can to get you up. Might just put my makeup on. Till I need to change my. You can do it, take your favorite song. Take a ride into the danger zone. You know my be bugging me. I just be wondering if you could me better. Itching for me like an ugly sweater. Need an image like a chuck in each other. I need to know. Wanna know what it's like. Baby, show me what it's like. I don't really got no tights. I just wanna f*** all night. Yeah. Oh, oh, oh.
Yeah. cha. See my hips, big hips, so cha. See my butts and my lips, don't cha. Lost a few pounds in my waist, oh yeah. This the kind of beat that go ba ta ta. Ba ta 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 ta. So good I say blah blah blah. Work it, I need a glass of water.
I swear I'm tired of these emotional, ungrateful, unstable, confrontational, dumb. You wanna bring it down, even when I'm trying to do right. We can go our separate ways right now. You can move on with your life, I swear to God.
You love a pity party, I won't show up. Always act like your don't stink, mother. Grow up, forever late, fish, won't bite. Sit around and deny, the round on the side. Then come up my
up, yo, you must be bleeding and some more. I don't know your feelings.
You want some, see I don't know why you like playing mind games with me.
Mind games.
I ain't slow nor dizzy. I know when you being distant. I know when you fake dizzy. Get out your feelings and miss me with that reverse psychology.
Man, you tripping, who got you that rolly chain?
And who put that car in my name?
But you think I'ma kiss your?
Nah, you lame.
You know what?
You.
Nah, you.
Nah, you.
You.
Nah, you.
Nah.
Et voilà, c'était c'était un mash-up de versions censurées. Et vous l'avez entendu, ça donne parfois des versions franchement ridicules, complètement dénaturées de leur sens. Et petite anecdote quand même, moi je me suis rendu compte en préparant ce mash-up qu'il y a des morceaux que j'avais jamais entendus en version originale, explicite, qui passaient en clip à la télé, comme par exemple Let's Get It Started des Black Eyed Peas, parce que je l'entendais justement qu'à la radio ou en clip à la télé. Et du coup j'ai découvert l'original qui n'a pas du tout le même sens. Voilà, alors après j'avais plein d'autres chansons que j'avais envie de mettre, de beaucoup de mes artistes préférés, que je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup qui étaient gommés, dont Tupac, qui a bien pris cher en termes de censure, mais on va s'arrêter là. Mais je crois qu'il y a une petite anecdote liée aux chansons, aux clean versions.
Oui, alors moi j'ai commencé à faire de la radio quand j'avais 20 ans. J'étais en échange un an aux États-Unis et j'ai fait de la radio sur la radio du campus. Et bien sûr, en bon petit français, c'est-à-dire j'étais pas trop pour passer des morceaux censurés. En fait, on avait une sorte de, comment on dit, une CD tech, quoi. On devait prendre les CD dans la radio pour les passer à l'antenne et c'était que des versions clean. Et en fait, c'était limité forcément, et c'était aussi les débuts d'Internet avec les téléchargements en peer-to-peer et tout ça. Donc moi j'étais comme un fou avec ça. Je voulais trop passer des trucs que je voulais moi, quoi. Et en fait, je me faisais appeler au téléphone en direct par des personnes de la radio.
Ah
oui, bah les deux. Par des personnes de la radio qui stressaient que le FBI, parce que c'est le FBI qui gère la censure aux États-Unis, et donc tu es obligé, sinon tu t'exposes à des grosses amendes, tu es obligé de passer les versions clean. Et donc ils stressaient, j'étais mais les gars, personne n'écoute notre radio locale, tout va bien se passer. Mais voilà, et après il y avait aussi des personnes qui m'avaient appelé, et c'était intéressant parce qu'on avait une émission de hip-hop avec un ami, avec mon ami Moutoua, et en fait il y avait un mec qui avait appelé qui était pas content parce qu'on avait passé un morceau de rap où il y avait le mot cracker, qui est en fait un terme d'argot pour parler des blancs, pour dire sale blanc, tu vois. Et du coup le mec était pas content, et j'étais mais en fait est-ce que tu nous as appelé toutes les fois où on a passé the n-word, comme on dit, pour
c'est le premier censuré,
voilà. Et parce qu'on on avait passé des morceaux pas censurés où il y avait le n-word, donc et donc ça l'a un peu mouché, parce que bon, clairement le mec était blanc et ça l'avait dérangé quand on passait cracker, mais pas la version pour parler des personnes noires en les insultant. Voilà, donc voilà la petite anecdote de la censure aux États-Unis.
Et ben promis, pour la suite de l'émission, on arrête de vous balancer des versions gommées. Tout de suite, on va écouter le morceau To Negate du pianiste arménien Tigran Amasyan.
Thank you.
Vous êtes bien à l'écoute de Sur le Fil sur Radio Galère. Et maintenant, on va s'écouter une petite chronique par Haroun.
Mais comment ils ont fait ? C'était la question que je me posais quand j'étais enfant. Comment les écrivains que je lisais, les Zola, les Jules Verne, comment est-ce qu'ils avaient fait pour écrire leurs livres ? Alors voilà la réponse que j'ai trouvée à l'époque. La réponse, elle est simple et compliquée à la fois. Je me suis imaginé que pour écrire un livre, il fallait ouvrir un livre, un pavé de feuilles blanches reliées, et tout simplement écrire. Écrire sans s'arrêter et écrire sans raturer, de sorte que le lecteur puisse lire une œuvre parfaitement terminée. Autant dire que c'est un programme difficilement envisageable pour un enfant de 10 ans dont la seule activité d'écriture consiste à écrire son journal intime de façon rageuse et irrégulière. Ce qu'on nous donnait à l'école, dans les années 80 et 90, est le produit de deux professeurs de lettres et inspecteurs de l'éducation nationale, André Lagarde et Laurent Michard, dans le fameux « Lagarde et Michard ». Le sous-titre « Texte et littérature, les grands auteurs français du programme ». On y trouve l'histoire de la littérature. Voltaire, Zola, Chateaubriand, Verne, Maupassant, etc. Des écrivains hommes blancs, encensés par des critiques littéraires, hommes blancs. Aujourd'hui, après avoir été soutenu par des personnes et des milieux féministes, en littérature ou ailleurs, j'écris et j'anime des ateliers d'écriture dans lesquels on lit des romans, recueils de poésie, essais écrits par des personnes racisées, des femmes, des personnes trans, des personnes psychiatrisées, des personnes dites minorisées. Que je l'évoque ou pas, à une petite échelle, ce carcan raciste et sexiste, ce carcan transphobe et validiste s'entr'ouvre. Rien que déjà parce que dans les ateliers d'écriture, d'autres personnes que celles qu'on nous présente être la norme prennent leur stylo pour écrire, lire à voix haute et publier. Depuis quelques semaines, me trottent en tête les propos de Nathalie Séjean, une ancienne camarade de résidence d'écriture dont je lis le contenu sur Instagram. Nathalie Séjean est une artiste qui fabrique des histoires. Sur son compte Instagram, elle parle de l'importance de créditer, c'est-à-dire de mentionner les personnes dont on s'inspire, mais aussi nos collègues, les gens qui nous permettent d'arriver avec un produit fini. Une médaille sportive, une entreprise de plomberie, une exposition de photos, la construction d'une maison, etc., etc. Pendant ses ateliers en ligne, Nathalie Séjean parle aussi des femmes tombées dans l'oubli, femmes de... sœurs d'eux, alors que ce sont elles qui ont fait le succès des grands hommes. Vincent Van Gogh, Mozart, et tout cela sans être reconnus. Pendant la préparation de cette chronique, au téléphone, elle me parle d'être confrontée à du vol de crédit, de reconnaissance. Elle n'est malheureusement pas la seule à le dire. Elle me parle du système de production dans lequel elle n'a pas envie d'être. Est-ce que créer veut forcément dire participer à la pérennité d'un système patriarcal ? Elle me parle de Georgia O'Keeffe, peintre nord-américaine du XXe siècle, qui suit sa propre voie sans rentrer dans un système fait par des critiques d'art qui eux-mêmes suivent la tradition et leurs propres intérêts. Elle me parle de Judy Chicago et de son livre « Through the Flowers, mon combat d'artiste femme », écrit dans les années 70. L'autrice y parle d'elle-même, des obstacles qu'elle a rencontrés et de l'histoire des femmes qui nous ont précédées. Judy Chicago dit « Lorsque j'ai écrit cette autobiographie, je l'ai pensée comme un genre de guide d'introduction pour les jeunes femmes artistes, susceptibles de les aider dans leur développement. En retraçant mon propre combat, j'espérais leur épargner l'inexorable tourment de réinventer l'eau chaude. Car mes études sur l'histoire des femmes m'ont appris que c'est ce que font les femmes, toujours et encore en particulier. » Car nous n'avons pas accès aux expériences et aux avancées de nos prédécesseurs féminines. Une conséquence du fait que nous continuons d'apprendre l'histoire de l'art et l'histoire tout court sous un angle de vision masculin, intégrant trop peu les réussites de personnalités féminines. J'écoute Nathalie me raconter comment Johanna Van Gogh a créé la renommée de Vincent Van Gogh. Par l'organisation d'expositions, la vente de livres, la collaboration avec des marchands d'art, elle diffuse l'identité d'un artiste qui, sans elle, serait tombée dans l'oubli. Peintre, oui, mais les autres métiers aussi. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire que tout le monde est nécessaire à la société, comme on l'a fait pendant quelques mois, lorsqu'on a découvert l'importance du travail des infirmières pendant la crise du Covid? Un système en crise. Une version erronée, censurée de l'histoire, qui dit « ces personnes sont absentes de l'histoire ». C'est un mensonge. Un mensonge qui dit aussi « il n'y a pas de gens comme moi qui l'ont fait, alors je ne peux pas non plus le faire ». Mais ça dit aussi « il n'y a qu'un métier qui mérite le respect ». C'est l'écrivain, le peintre, le médecin, le chercheur. Sans parler de tous les métiers dits subalternes, sans lesquels toutes les œuvres mentionnées n'existeraient pas. Le mythe de l'écrivain, de l'artiste, du sportif, de l'entrepreneur solitaire, le mythe de l'homme seul qui construit son succès par la force de son caractère. Ce mythe-là, non seulement ne rend pas justice aux personnes du passé et du présent, mais il empêche des gens de faire à l'avenir. Dans nos pratiques, les plus courantes, qui vont du partage d'informations sur les réseaux sociaux à la façon dont on présente son travail, on peut travailler à reconnaître la myriade de gens qui font autour, avec nous, pour un objectif commun et la richesse de ce que ça nous apporte. Il y a plein de façons de reconnaître, de rendre justice, de faire du lien avec les personnes qui nous ont précédées. Ce qui permet la notoriété d'une personne, c'est à la fois un collectif de personnes qui l'a créé et le travail de personnes souvent invisibilisées. En mentionnant l'existence de ces personnes, j'encourage d'autres à découvrir leur travail, à faire du lien et elles-mêmes à créer d'autres choses. En termes de reconnaissance aussi, c'est un enjeu de justice. Rendre justice aux personnes qui ont travaillé à construire un édifice dans l'ombre, que cet édifice soit un objet, une carrière sportive ou entrepreneuriale. Reconnaître qu'on n'est pas seul, c'est remettre en cause une logique capitaliste du travail. À l'encontre du vol, qui consiste à capitaliser sur le travail des autres en les invisibilisant. Évoquer les autres, celles et ceux qui ont travaillé, permis que ça arrive, c'est faire du lien. Ça crée des branches à partir de nouvelles boutures. Pour prolonger cette chronique, j'ai envie de vous conseiller deux ouvrages. Un livre qui s'appelle « Autrice, ces grandes effacées qui ont fait la littérature ». C'est une anthologie de textes présentée par Daphné Tikrizenis. Un véritable contre-pied aux manuels scolaires qui ont servi de base à l'éducation littéraire. Je veux aussi mentionner le livre jeunesse « Le musée mal rangé », illustré par Amina Bouajila et écrit par Ouyem Rebaï, professeur des écoles. Il raconte la visite d'une maîtresse de classe et de ses élèves au musée grandiose des brillantes personnalités. Un élève réalise que tous les portraits représentent des hommages et ne ressemblent pas à ses camarades lors d'une visite au musée. Par le biais de la pédagogie, Ouyem Rebaï critique l'invisibilisation des femmes et des personnes racisées dans les récits collectifs.
Et dernière référence qu'Aoun voulait nous partager et en recommandation, du coup, conseil d'un épisode de l'Affranchi podcast recommandé par Nathalie Séjean et dans Hors-jeu, l'industrie du sport professionnel, Agathe Dube-Moreau parle du football américain. Elle dirige la lumière sur les femmes spectatrices, épouses, coachs, directrices d'équipe qui permettent à des sportifs de générer des milliards de dollars sans gagner la reconnaissance qu'elles méritent.
Et maintenant, on s'écoute une petite chanson qui parle de biscuits en caoutchouc, en anglais, Rubber Biscuit de The Chips.
Do that again.
Do 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 bom.
Did you overhear of a wish sandwich? Well, it's the kind of a sandwich that you're supposed to take. Two pieces of bread and wish you had some meat.
Do 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 bom.
Gal gal, lovin' in the blubber blubber. Bell ride, hippin' in the zipper zipper. Oh, love the bell, chicken lover hover. He ride, one of the record. Oh, love the bell, chicken lover hover.
ride the hoodie with his hubba hubba. All out the magic of lubba hubba. He ride a heaven in a hubba hubba. How loud is something that a jigger want?
The other day, I ate a ricochet biscuit. Well, it's the kind of a biscuit that's supposed to bounce off the wall back in your mouth. If it don't bounce back, you go hungry.
Do, 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 bo. Cow, cow, lovin' in the blubber, lovin'. I love the sun that I love it, do. He ride a twinkle like a lover, do. I love the sun, dibble, zibble, dibble. All out the magic of lover, hubble. He ride a one, a dibble, lover, lover. All out the magic of lover, hubble. Lean down and lovin' in the blubber, do. He ride a zibble, do, hubble, do, lover.
The other day, I ate a cool water sandwich and a Sunday go to meat and bun.
Do 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 bo.
Cow cow lovin' and a blubber lover. Hell ride a ricky ticky hubba lover. Hell lord a wonder zipper do. He ride a living in a hubba lover. Hell ride a hubbin' in a wonder. He ride a wonder dipper racka racka. All hell come hell tickle lover hubba. Bring down a wonder zipper do. He ride a hubbin' in a gun dipper. What you want for nothing? A rubber biscuit?
Do 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 bo.
Cow cow ooh.
Sur le fil, Radio Galère. Aujourd'hui, on parle de gomme. Et on continue avec une chronique musique par Noé.
Qu'on va lire à sa place parce qu'elle n'a pas pu être là avec nous ce soir.
C'est pour toi, Noé. On est à la fin des années 50. Anne Bredon, devrais-je dire Anne Bredon, à la vingtaine, elle étudie les mathématiques à Berkeley, en Californie, et elle fait de la folk avec sa guitare dans des petites radios associatives. Un soir, elle joue dans un showcase de la radio locale KPFA, son dernier morceau, Babe, I'm Gonna Leave You. Ça vous parle ce titre ?
En tout cas, ce soir-là, ça fait vibrer les oreilles de Janet Smith, qui est dans le public et qui tombe red dingue de Anne, je veux dire du morceau qu'elle entend. Elle va demander à Anne si elle veut bien lui apprendre, Anne lui transmet, Janet réarrange le truc à sa sauce, et voilà qu'un soir où elle joue sa version dans le même radio show, 3 ans plus tard, elle se fait repérer par Joan Baez. Joan Baez n'est pas encore une star, mais ça va pas tarder. Elle reprend elle-même le morceau et le joue en concert en 1962. Elle le crédite comme un morceau traditionnel, réarrangé par elle-même.
Au passage, la radio PKFA portera 10 ans plus tard un des premiers programmes radio gay aux États-Unis qui s'appelle Fruit Punch. Décidément, les radios asso, ça envoie du lourd, non ? Bref, Babe, I'm Gonna Leave You finit par arriver aux oreilles de... vous savez qui ?
Bah oui, on sait qui. Led Zeppelin. Robert Plant et Jimmy Page sont fans du morceau, le reprennent et le réarrangent complètement à leur sauce. Perso, moi je suis fan de ce titre de Led Zepp, moi aussi. Depuis mon lycée, donc depuis presque 20 ans, Damn It. Jusqu'à il y a 3 jours, toute cette histoire me fait un effet blasé.
Je repense à Anne. C'est quoi sa vie pendant tout ce temps ? Elle poursuit ses études de maths, apprend à faire des paniers. D'après Wikipédia, sa vie n'a pas l'air aussi hardcore que celle de Valérie Solanas, qui finit dans une misère dingue pendant que l'éditeur à qui elle a donné son scam manifesto se fait des millions sur son dos sans jamais la créditer.
Mais en 1980, Janet entend son fils écouter de la zik, c'est du rock, elle y connaît pas grand-chose, elle c'est le folk. Mais elle reconnaît le fameux morceau. Elle cherche les crédits de la chanson sur l'album de Led Zeppelin, sorti en 1971. Elle y voit le nom de Joan Baez et que c'est un chant traditionnel. Alors elle se met en quête pour retrouver Anne Bredon. Elle lui raconte toute cette histoire. Maintenant que le morceau est un succès, ça laisse Anne un peu amère. Alors le fils d'Anne Bredon se lance dans la bataille juridique et 10 ans plus tard, il obtient enfin que sa mère soit créditée. Dès 1991, Anne Bredon reçoit 50% des royalties du morceau Babe, I'm Gonna Leave You.
Conclut l'histoire, pour ou contre les droits d'auteur. Haha, bon, mais finalement...
Start going down, going down.
La vraie conclu, c'est que c'est dans les radios associatives que tout se passe. Si vous ne savez plus quoi faire de vos royalties, soutenez Radio Galère, on a besoin d'une nouvelle table de mixage. Faites un don sur Radio Galère. Je recommence. Radiogalère.org. Et même si perso je ne suis pas très folk, Anne and Janet, à votre tour d'être mise à l'honneur, suite en musique, donc avec autre chose, car on a déjà passé le morceau.
Merci Noé pour ta chronique qu'on a lue avec plaisir. Et on va enchaîner avec une autre rubrique de Monsieur Funambule.
Et la boule de gomme alors, dans tout ça? Eh bien, au Québec, la boule de gomme est une confiserie composée de gomme à bulles, façonnée en une petite boule brillante de couleur vive enrobée de sucre durci. En France, c'est une gomme de consistance mi-ferme enrobée de sucre cristallisé. Mais comment est donc née l'expression « mystère et boule de gomme » ? Mystère et boule de gomme, c'est une affaire obscure. Certains prétendent que cette expression date du XXe siècle. La boule transparente est utilisée par les voyantes pour lire dans l'avenir. De ce fait, si la boule est faite à base d'un matériau opaque, la voyante ne pourra rien voir, donc rien prédire, et le mystère restera entier. Ou peut-être que la fonction de boule de gomme est simplement d'introduire de la légèreté dans une réponse qui admet l'impossibilité d'une solution, d'un mystère insondable, de prendre un air cool et détaché pour admettre qu'on ne sait pas et qu'après tout, on s'en fout, qu'on s'en tamponne. Et l'expression « à la gomme » alors ? Bah, c'est une expression qui veut dire « sans consistance, sans valeur ». Elle est née aux alentours de 1840 et charrie dans son panier ce qui fait le caractère du « gommeux ». La fatuité, la médiocrité, l'inutilité, la vanité. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, le « gommeux » ? Alors le gommeux, c'est un terme péjoratif du 19e siècle pour décrire un homme prétentieux et d'une élégance excessive. Moi je trouve que ça n'existe pas l'élégance excessive, mais bon. Ok, le 19e siècle. C'est un mot à l'étymologie incertaine. On suppose que les gommeux étaient des élégants qui n'avaient d'autre occupation que de se gommer, de se pommader, de se parfumer. On parle aussi de pommadins, ainsi dénommés pour leur propension à enduire généreusement cheveux et cuir chevelu d'une préparation onctueuse composée d'un corps gras et d'essence parfumée. On l'associe bien sûr au garçon coiffeur et on l'utilise pour se moquer de tout homme vu comme ridicule, précieux et maniéré, sophistiqué et pédant, pour ne pas dire pédé, qu'il soit ou non en possession d'un peigne et de ciseaux. Et le féminin gommeuse existe aussi. Et c'est aussi péjoratif, c'est une personne élégante, prétentieuse, désœuvrée et vaniteuse. Exemple, j'ai une voiture, disait une gommeuse à la mode. Ça, c'est dans Mistinguette, en 1954. Et la gommeuse, c'est aussi une chanteuse de café-concert. Et on va s'écouter d'ailleurs la chanson La gommeuse 1900 de Georgette Plana.
Toi la gommeuse de 1900, amour toujours printemps serment, c'est la chanson de tes 20 ans. En ce temps-là, tu t'en souviens, comme de venture t'avais des chiens, des tas de colliers autour du cou et des paillettes un peu partout. En ce temps-là, tu t'en souviens, l'amour te choisissait pour rien, et dans les hôtels de tournée, tu laissais choir tes belles années. En ce temps-là, t'avais 20 ans et tu croquais à belles dents dans les croissants de la bohème, derrière deux ronds de café crème. En ce temps-là, pour une thune, t'avais du plaisir à la une, et tu chantais pour les clients à l'Alcazar, à Bataclan. Amour toujours, printemps, serment, toi la gommeuse de 1900. Amour toujours, printemps, serment, c'est la chanson de tes 20 ans. Il te reste encore les croissants, mais tes 20 ans ont foutu le camp, comme les capons, ça bon marché, derrière le nez ont dessiné. Il te reste en publicité que ta pauvre gueule trop maquillée, qu'on a oublié, c'est normal, et quelquefois ça te fait mal. d'avoir plus rien que des souvenirs qui font la roue pour le plaisir. T'as plus rien, t'as même plus de gambilles, ta vie marche avec des béquilles. Mais comme au temps des années folles, si tu le pouvais, ma parole, sur que tu voudrais rempiler, si tout était à recommencer, si tout était à recommencer. Amour toujours, printemps, serment, toi la gommeuse de 1900. Amour toujours, printemps, serment, comme ils étaient beaux tes 20 ans.
Sur le fil Radio Galère. Et alors, un gommeur, c'est aussi un ouvrier qui opère le gommage d'étoffes en 1858 ou de papier à lettres. T'imagines, tu gommes des trucs toute la journée ? Et bien sûr, l'expression qu'on aime tant, mettre toute la gomme, ça veut dire accélérer l'allure, donner de l'importance à, employer ses efforts à. Synonyme bien connu, appuyer sur le champignon. L'expression mettre la gomme apparaît dès 1932, même si certaines sources la feraient apparaître dans les années 20. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette expression n'est pas liée aux pneumatiques ou à la trace de pneus laissée sur la route par une voiture en accélérant. La gomme de l'expression correspond en réalité à celle présente dans l'essence. Autrefois, lorsqu'un conducteur accélérait brutalement, la surconsommation soudaine de carburant entraînait un fort dégagement de gomme qui était visible par le pot d'échappement et dégageait une forte odeur de gomme brûlée. Le taux de gomme dans l'essence a depuis diminué et est aujourd'hui normé à 5 mg par 100 ml, mais l'expression est restée. Pour votre sécurité et afin de réduire votre consommation de carburant, accélérez toujours, sans à-coups et avec modération. Et enfin, une autre expression moins connue, la gomme a effacé le sourire. Qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, c'était utilisé pour parler de la matraque des CRS en mai 68 à Paris, utilisé pour effacer le sourire ironique des manifestants et manifestantes devant la Sorbonne. Et du côté des États-Unis, à qui on doit l'expansion du chewing-gum en Europe après le débarquement, n'est-ce pas ? La gomme a effacé et le caoutchouc se dit « rubber », qui veut aussi dire « préservatif » d'ailleurs. Et le verbe « to rubberneck », comme employé par Elvis dans sa chanson « Rubbernecking » de 1969, signifie « faire le curieux », « faire la curieuse » et « se tordre le cou », par exemple en regardant qui peut bien conduire cette Cadillac qui met la gomme.
Et oui, on passe Elvis sur le film, mais rassurez-vous, c'est aussi parce qu'on se rappelle que Elvis Presley a bien gommé un paquet d'artistes afro-américains et qu'il s'est un petit peu approprié pour lui tout seul comme le king du rock'n'roll. Que nenni. Ça s'appelle du surgommage.
Ça s'appelle de l'appropriation
culturelle.
Et voilà, c'est déjà la fin de Sur le fil, émission gomme. On se retrouve le mois prochain pour une autre émission.
Et on salue nos camarades qui n'ont pas pu être là ce soir.
Salut à vous.
Ciao.